Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui va publier mi-mai, avec Marie-Paul Virard, quelle France en 2050 face aux grands défis en Europe et dans le monde, chez Odile Jacob. Sylvain Aurébi, président d'Orientis, Lété Kousmi, Jean-Marc Daniel, le professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pour l'Écho, avec à la une du mois d'avril, qui aime l'Europe ? Point d'interrogation. Ce que disait Sylvain est parfaitement juste, la question des seuils, les seuils entre TPE, PME, ETI, a été repoussée à un autre jour, considérée comme compliqué, mais touchy, effectivement. Et la question des normes a effectivement été repoussée également, puisqu'il va y avoir une... On a lancé les revues de dépenses, on fait les revues de normes, là.
Formidable.
Formidable. Déçu, Patrick Artus, par les Bruno Le Maire et la simplification.
Oui, mais on n'attendait pas que Bruno Le Maire puisse s'attaquer aux normes, quoi. Je veux dire, d'abord,
comme il a été dit
à l'instant, c'est les normes sont de la transposition en général en droit français de règles européennes, donc on peut pas. Le problème, c'est que ça crée un biais de compétitivité croissant de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Et donc il y a le biais de compétitivité maintenant sur les investissements, sur l'Inflation Reduction Act, sur le Chips Act, et puis il y a le biais de compétitivité qui résulte du fait que les économies, les États-Unis sont une économie qui a nettement moins de normes que l'Europe, quoi. Et donc, on n'est pas étonné j'en reviens au débat d'avant, du flux de capitaux européens qui vont vers les États-Unis. Vous savez que les États-Unis reçoivent 6% de leur produit intérieur brut en capitaux à long terme chaque année du reste du monde. Et l'Europe reçoit 0% de capitaux à long terme du reste du monde. Donc ça, c'est représentatif de l'attractivité de l'économie américaine. Tout compris, quoi, je veux dire, le dynamisme, la recherche-développement, les normes, les incitations fiscales. Donc il faut que l'Europe redevienne beaucoup plus attractive. L'Europe n'attire pas de capitaux étrangers.
Mais c'est sans issue ce que vous décrivez, parce que l'Europe ne va pas revenir en arbre.
Non.
Le toilettage des normes au niveau européen n'aura pas lieu.
Ben oui, mais ça nous crée. Il faudrait qu'on réfléchisse systématiquement au handicap de compétitivité que ça crée pour l'Europe vis-à-vis du reste du monde.
Ah oui, mais alors là. Bon, après, on n'est pas obligé de surtransposer tout ce que l'Europe nous propose. Et on rappelait avec Romain Rivaton hier l'histoire du DPE. C'est la France qui transpose l'obligation de DPE et qui ajoute que les plus mal notés pourront plus louer début 2025. Ça n'était pas dans les exigences de départ. Fantastique. C'est un exemple super concret. Même déception, Jean-Marc Daniel.
Non, pas de déception parce que je n'attendais rien de ce genre de choses. Donc j'avais proposé d'ailleurs, on l'a dit au moment de la matinale, d'appeler la chronique de notre débat simplification en deux points en fumage. C'est de l'enfumage, mais et c'est plutôt rassurant, hein, je veux dire, c'est assez conforme à la façon dont est gérée la politique économique depuis que Monsieur Le Maire est à la tête de Bercy. Donc je le trouve assez cohérent et assez fidèle à lui-même, donc ça me rassure. Alors après, si vous voulez, le summum du ridicule, c'est quand même cette histoire de supprimer des lignes dans le bulletin de paix.
Oui, celle-là...
S'ils veulent supprimer des lignes dans le bulletin de paix...
Ça simplifie rien, c'est juste que...
Ça m'a fait penser au moment, vous savez, dans cette pièce où il y a des personnages qui rentre et puis qui voit une jeune femme et il lui dit cacher ce sein que je ne saurais voir. Donc là, c'est cacher ces lignes cacher ces impôts que je ne saurais voir. Je rappelle que ce personnage, c'est Tartuffe. Et donc, je pense que tous ces gens qui veulent qu'on cache des choses, ce sont des Tartuffes. Alors après, sur le fond, s'ils veulent véritablement simplifier le bulletin de paix, je maintiens, au lieu de supprimer des lignes, ils n'ont qu'à supprimer les impôts qui correspondent à ces lignes.
Il faut supprimer les lignes et leur contenu.
Voilà, et leur contenu. Et à ce moment-là, il y aura une simplification positive et utile pour la croissance économique.
Bon, donc, mais enfin, je sais pas, l'histoire du test PME, ça paraît pas débile, le test PME. Allez, je fais une mesure pour les PME, je vous la soumets, vous PME, vous la testez avant qu'on la vote.
Je crois que c'est pas débile.
C'est des mesures d'impact. Ils sont censés être faites régulièrement. Après, je sais pas dans les faits comment on va pouvoir tester une mesure qui a pas encore été votée, tester auprès de qui, sous quelle forme.
C'est vrai.
C'est pas toujours simple, mais pourquoi pas?
Alors, il y a plein de demandes d'autorisation qui devraient disparaître. Il devrait plus y avoir à terme l'obligation pour une entreprise de déclarer les arrêts maladie, parce qu'en fait, la sécurité sociale a maintenant les moyens automatiquement de pouvoir être informée. Dites-le nous une fois. Moi, effectivement, je croyais que ça existait déjà. Le coût des CERFA, tout le monde redoute que leur disparition ne se traduise par une réincarnation en autre chose.
Ah oui,
1800 CERFA. En plus, c'est un organisme qui a disparu depuis 15 ans. L'organisme historique CERFA, parce que c'était le nom. Le bulletin de salaire, c'est un peu le... Vous avez remarqué, dans un texte de loi, les gros titres de la presse généraliste s'accrochent toujours à un truc. Alors que, quelquefois, il y a 200 mesures, mais il y en a une. Et ça m'étonne pas que la question ait porté hier sur le bulletin de salaire. En plus, c'est la seule mesure visible un peu pour tout le monde. Après, il y a des quantités de choses. Bon, visiblement, il y a certaines obligations qui ne risqueront plus d'emmener en prison le chef d'entreprise.
C'est déjà une bonne nouvelle.
Ah, c'est pas mal, ça. La mensualisation des loyers des baux commerciaux, qui parfois sont trimestriels.
Ah oui, non, mais bon, ça, c'est une mesure, mais c'est pas une simplification, c'est une mesure pour la trésorerie des entreprises.
Oui, c'est sûr.
Les bailleurs aujourd'hui vous demandent d'avance 3 mois de loyer, ce qui est absolument anormal. Donc on va passer à une mensualisation, ce qui est très bien. En plus, il vous demandait 6 mois de garantie sur les loyers.
C'est 3 max maintenant.
Voilà, maintenant c'est 3 max. Parfois, c'était plus de 6 mois. Donc ça va redonner de la trésorerie aux entreprises, aux commerçants, ce qui est une très bonne chose. C'est pas vraiment une simplification.
Mais une bonne mesure. Voilà, il y a quand même. Il y en a 50. J'ai pas fait la liste des 50. J'ai pris les principales. Une plateforme numérique unique pour l'ensemble des marchés publics, qui va s'appeler Place. Voilà. Et qu'en cas de contentieux, il n'y aura que et seulement le juge administratif de compétent.
Non, mais il faut reconnaître une chose, c'est que l'État s'est digitalisé.
Alors ça, oui, oui.
Aujourd'hui, on se déplace plus, tout se fait en ligne, se fait assez facilement. Regardez votre... Alors, ils sont très bons sur les impôts.
Les impôts, c'est quand même...
Pour déclarer vos impôts ou pour porter une réclamation ou tout. C'est ultra simple, ils ont trouvé, pour payer aussi d'ailleurs. Enfin, tout ça est très simple. Non, mais c'est vrai que tout fonctionne et l'État s'est beaucoup digitalisé. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était Thomas Cazenave qui était le délégué interministériel à la transformation, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et c'est lui qui avait travaillé en 2017 sur cette histoire de simplification, de digitalisation. Et pour le coup, ça fonctionne. Donc ça nous a un peu simplifié la vie.
Non, mais
il reste tellement de poids administratif encore.
Ce qui est frappant, c'est que Patrick nous l'expliquait à juste titre. Quand on manque de main-d'œuvre, on met des robots. Là, dans l'administration, c'est l'inverse. Quand on met des robots, on rajoute de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires que depuis que l'État est en train de se numériser.
Je suis d'accord.
C'est quand même...
C'est un peu le travail... C'est pas vraiment le travail de Bruno Le Maire, c'est celui de Stanislas Guérini, qui est censé faire une réforme.
Il a sous son autorité la direction du budget, donc il serait bon qu'il tienne compte de ce que raconte la direction du budget.
Jean-Marc, à Bercy, au ministère des Finances, il y a beaucoup moins de salariés qu'avant.
Oui, j'entends bien.
Bercy a fait une vraie modernisation et des vrais gains de productivité.
Mais il n'y a pas que Bercy, quand même, qui peut être robotisé.
Mais justement, il n'y a pas que Bercy. Alors, il y a eu l'histoire de l'annonce de la généralisation des expérimentations d'Albert, par Gabriel Attal, l'intelligence artificielle du gouvernement. Il y a donc 26 agences France Service qui, depuis octobre, expérimentent, au-delà simplement des questions liées aux impôts, tout type de questions. Albert est là pour répondre à vos questions, vous, usagers, comme on dit. Eh bien, le bilan des courses, c'est que dans 70% des cas, les agents et les usagers sont satisfaits. Dans les 3/4 des réponses écrites générées par Albert, les éléments étaient parfaitement fiables et n'ont donné lieu à aucune modification après relecture par un agent, par un humain de l'administration. Le temps de réponse de l'administration est passé de 7 à 3 jours et les mots utilisés sont clairs et intelligibles par tous. On peut se dire que là, on a une vraie technologie. Et c'est tout frais, hein. Ça a vu le jour en juin 2023. Ça a été créé par la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique, pilotée par un ingénieur français. C'est donc présenté comme une IA souveraine. Et les résultats sont probants et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, on va peut-être pas...
Non, mais enfin, c'est le moins qu'on puisse en attendre.
Je suis d'accord.
C'est-à-dire que nous tous, nous, on n'a pas Albert. Mais enfin, on a Microsoft Copilote, qui est un chat GPT qui est inséré dans mon navigateur et dans mon réseau d'entreprise, qui fait que je peux poser des questions et trouver les réponses dans les documents de l'entreprise, dans mes mails, dans tout ce qui a été créé par l'entreprise. Et l'IA me répond sur la base de ces documents. Donc évidemment, si vous rentrez tous les documents, toutes les lois, tous les règlements, Albert, il va vous donner les bonnes réponses. Il donne des réponses extrêmement efficaces,
rapides. Mais des réponses qui font foi.
Oui, bien entendu.
Albert vous a répondu, l'administration. Mais si Albert vous dit oui, l'administration vous a dit
oui. Mais c'est ce qu'on fait dans les entreprises. Aujourd'hui, j'ai demandé à mes directeurs de me trouver trois points irritants dans leur boulot de tous les jours, pour essayer de trouver une solution grâce à l'IA. Tous les jours, on a quelque chose qu'on est obligé de faire, qui est répétitif, qui est compliqué, qui est pas fluide. Eh bien, on va les identifier et on va, grâce à l'IA, résoudre ce type de problème. Donc, il est normal que l'État le fasse. On s'extasie en disant « incroyable », mais enfin bon, c'est quand même ce qu'on fait tous dans les entreprises. Et il est bien que l'État le fasse aussi rapidement.
Je trouve ça très très bien. Ça va assez vite. Été 2023, le produit est en place. Début de l'expérimentation d'abord à Bercy, comme toujours, puis ensuite dans d'autres services publics, notamment les maisons France Service, qui sont des espaces qui regroupent physiquement les principales démarches administratives que les Français sont amenés à réaliser. Et maintenant, généralisation, ben voilà, écoutez, on y va.
Mais quand même, Jean-Marc a dit une chose, c'est que ça ne va pas supprimer des fonctionnaires, tout ça. C'est-à-dire qu'on va les utiliser à autre chose.
On devrait supprimer des emplois.
Dans une
entreprise, quand on fait en théorie, l'investissement technologique, le résultat, c'est qu'on fait des gains de productivité,
en théorie,
donc on supprime des emplois.
C'est totalement vrai. En théorie, c'est vrai.
Oui, mais sur l'IA, c'est pas sûr. Il y a des papiers de recherche qui sortent aux États-Unis qui disent qu'il ne faut pas attendre de l'intelligence artificielle des gains de productivité parce qu'il y aura des coûts induits de l'intelligence artificielle, des coûts de vérification, des coûts de falsification, et en fait que ça sera, ces coûts s'équilibreront avec les avantages de l'IA et que ça sera à peu près neutre sur la productivité.
Vous posiez la question le 27 mars dans les Échos, Patrick Artus, et alors c'est une question vraiment fondamentale puisqu'elle est au cœur de ce qui s'est produit à la suite du programme de stabilité et de l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques. Faut-il corriger le déficit public ? J'ai posé cette question à François Eckhalf, spécialiste des finances publiques, qui considère que compte tenu des perspectives de croissance, c'est pas forcément la priorité. Et vous posiez la question dans les Échos fin mars.
Je crois que on a bien identifié que les deux problèmes majeurs de la France, c'est un, l'absence de gains de productivité, et deux, le taux d'emploi trop faible. Et si vous faites un effort considérable de réduction du déficit public, vous risquez d'aggraver ces deux maux français. Vous aurez moins d'investissements publics de développement de la productivité, moins d'investissements en R&D, en technologie, et puis vous aurez moins de budget pour la reconversion, la formation, pour France Emploi, etc. Donc, je crois que ça serait optimal d'inverser les choses, c'est-à-dire de corriger d'abord le déficit de productivité et le déficit de taux d'emploi, puis grâce au supplément de croissance que ça permettrait d'obtenir, de corriger le déficit public. Et puis, les nouvelles règles européennes nous permettent de faire ça. Puisque si vous faites des investissements qui vont stimuler la croissance, améliorer la soutenabilité de la dette, vous avez le droit d'étaler votre programme de retour à 3% du PIB ou de déficit ou à moins, parce qu'il faut faire baisser la dette publique, sur 7 ans. Donc on a le temps de faire des investissements qui procureront davantage de recettes et puis qui, dans un deuxième temps, simplement de réduire le déficit public. Donc je suis d'accord avec François. Le vrai danger, si vous faites aujourd'hui un programme de réduction des dépenses publiques important, c'est que d'abord, les dépenses publiques que vous allez couper, c'est des dépenses productives.
On l'a vu.
La recherche, le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Éducation.
Le contrat d'apprentissage.
Voilà, et donc, vous aurez encore moins de croissance et que finalement, vous aurez une perte de recettes fiscales qui va entamer votre capacité à réduire les déficits publics. Donc je suis d'accord avec François. Il faut
acceptons une période de rouge pour relancer la machine.
À condition de faire les bonnes dépenses publiques.
Ah, oui.
Donc, il faut faire des. Mais on sait à peu près ce qu'il faut faire. Je veux dire, il y a plein d'évidences empiriques, académiques, qui montrent qu'on n'investit pas assez en R&D, on n'investit pas en R&D assez fondamentale, on n'investit pas assez en nouvelles technologies. Et donc, ça n'empêche pas de changer la nature des dépenses. Mais réduire le total des dépenses, je crois que c'est effectivement pas une bonne stratégie.
Jean-Marc, votre avis là-dessus, c'est pas le moment de réduire le déficit, il faut accepter une période de rouge en redirigeant nos priorités d'investissement et de dépenses publiques vers les dépenses d'avenir.
Non, je suis pas du tout d'accord avec
pas
ça.
Pas du tout d'accord
vous
avec
savez,
ça.
Le discours, ça me rappelle le discours de Jacques Chirac, vous savez, quand il y a des recettes... C'est la cagnotte et il faut rendre aux Français en baissant les impôts. Oui, il faut rendre aux Français en baissant les impôts le fruit de leur travail. Et puis quand il y a un ralentissement de la croissance économique, il faut soutenir l'activité économique par la dépense publique. Moyennant quoi, on n'équilibre jamais les comptes publics. Donc je pense qu'effectivement, c'est la formule célèbre de l'équipe de Kennedy. Il vaut mieux réparer le toit quand il fait beau plutôt que quand il pleut. Mais je pense que globalement, les règles européennes font aussi la distinction entre le déficit structurel et le déficit conjoncturel. On accepte un déficit conjoncturel quand on est dans une phase effectivement de ralentissement cyclique de l'économie. Ça me paraît tout à fait sain et tout à fait normal, sachant que en ce moment d'ailleurs, les derniers indices PMI montrent que la phase du cycle est plutôt en train de se retourner vers une phase plus porteuse.
On a publié hier en zone euro.
En zone euro, on voit bien.
Passe la barre des 50.
Et puis ensuite, il faut s'attaquer au déficit structurel. Alors là aussi, sur tous les enjeux de finances, de redressement des finances publiques, toutes les études qui ont été faites dans les années 80, dans les années 90, avec à l'époque la grande question du multi. On parlait encore de multiplicateur keynésien et on se disait le multiplicateur il est positif quand on augmente la dépense, il devient négatif quand on la contracte. Et les travaux de l'OCDE ont bien montré que effectivement il y a un effet Courbangis. Dans un premier temps, on cale et puis après on repart. Regardez ce qui s'est passé au Portugal, regardez ce qui s'est passé en Irlande. Et donc quel est le pays où il y a le plus de gains de productivité en ce moment dans la zone euro? C'est l'Irlande. L'Irlande qui était le i des pics d'il y a une dizaine d'années, qui a fait un effort considérable de redressement de ses finances publiques.
Ce n'est pas le moment auquel vous le faites.
Je pense pas que c'est le moment. Non. Je pense que c'est la nature des dépenses.
C'est-à-dire ce que disait Patrick.
Oui, d'accord, mais ça veut dire concrètement qu'il faut se donner un objectif de baisse du déficit, de baisse des dépenses publiques en disant je vais cibler un certain nombre de dépenses qui sont effectivement peu porteuses de croissance économique. Après dire...
Vous avez vu les montants, Jean-Marc, là, qui sont devant nous. Les montants
j'entends bien, mais vous avez 55% du PIB qui est en dépenses publiques. Vous avez vu le montant. 55%. Vous l'avez vu, ce montant. Donc 55%, on doit pouvoir faire des dépenses. Et ensuite, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, et puis je vais donner la parole à Sylvain, mais quand vous regardez le nombre de doctorants, puisqu'on dit, effectivement, l'université, le nombre de doctorants a baissé considérablement sur les deux ou trois dernières rentrées scolaires. Et où ça baisse? Ça baisse dans les sciences fondamentales. Ça se maintient en sociologie, en psychologie, en histoire du bien-être. Tout ça se maintient. En revanche, les doctorants en sciences pures, en mathématiques, mathématiques appliquées, physique, on assiste à un effondrement. Et donc, je pense qu'il y a un véritable enjeu qui n'est pas uniquement budgétaire, qui est de se poser la question du mode de fonctionnement de notre éducation. Il ne s'agit pas de dire il faut augmenter les dépenses d'éducation, il s'agit de dire à quoi servent ces dépenses d'éducation.
C'est pas totalement antinomique ce que vous dites tout
le temps. Non, mais j'entends bien, mais ça veut dire il faut pas baisser le déficit. Oui. Je dis non, il faut baisser le déficit, il faut avoir le courage de dire il y a un vrai problème de qualité et on ne le résoudra pas en disant il faut attendre qu'il fasse beau.
Vous me parliez de Courbangis, Daniel, et si on s'amuse, enfin, si on commence à taper à coût de 20-25 milliards par an, le bas du J il va être sévère quand même. Là, c'est sur des gros montants.
Écoutez, encore une fois, 55% du PIB est en dépenses publiques. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'État doit être le seul à faire des efforts. Encore une fois, là aussi, quand vous regardez la durée du temps de travail normal dans la fonction publique, c'est 1660 heures. Le dernier rapport de la Cour des comptes dit que dans les collectivités locales, c'est 1572 heures. Et quand un préfet dans l'Indre demande à ses collectivités locales de mettre à 1660 heures, on renvoie le préfet en disant « Oh là là, ça va mettre le feu sur le plan social. » Donc, il y a un moment où, encore une fois, il ne s'agit pas de dire « c'est pas le moment », il s'agit de dire « c'est le moment et voilà comment on va faire », parce que l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des dépenses publiques efficaces.
Sylvain, ça vous inspire une réaction? Deux économistes qui s'écharpent sur le...
Non, ils ne sont pas écharpés.
Parce que j'ai pas le sentiment
qu'ils aient dit des choses vraiment contraires
l'un
et l'autre.
Non, pas totalement
antinomique. Vous savez, l'ego des économistes, il faut qu'ils aient raison. Donc, il dit « je suis pas d'accord avec lui », puis après, il répète la même chose.
Il y a un moment,
il fréquente beaucoup la profession.
Je suis pas d'accord avec lui. Non, mais c'est vrai que quand on vous écoute tous les deux, on a des éléments complémentaires.
Je suis pas assez fin pour détecter les.
Mais il y a un moment, Patrick, il faut bien prendre des décisions quand on est à la place de Bruno Le Maire.
Oui, mais juste un mot. Si nous avions le taux d'emploi des Allemands, c'est-à-dire qui est 10 points plus élevé que le taux d'emploi des Français, ça veut dire que les Allemands ont 14% de plus d'emplois que ce qui correspond à notre taux d'emploi français. Alors, c'est des emplois peut-être un peu moins productifs que la moyenne, mais ce n'est pas évident. On aurait peut-être 12% de PIB en plus. On aurait 12% de recettes fiscales en plus. Et donc, on aurait 6 points de PIB de recettes fiscales en plus. On aurait 12% de PIB en plus. Si on calcule le poids des dépenses publiques dans le PIB avec ce taux d'emploi des Allemands, il est à peu près le poids des dépenses publiques dans le PIB de l'Allemagne. Et donc, la réalité, c'est qu'on n'a pas trop de dépenses publiques. Elle est mal affectée.
On n'a pas assez de gens.
Mais on n'a pas assez de gens au travail. On n'a pas assez de gens qui produisent du revenu.
Oui, alors, je dirais à mon ami Patrick, contre le chômage, on a tout essayé. Et donc, qui nous explique comment on va atteindre ce taux d'emploi. En revanche, là où je suis d'accord, on ne travaille pas assez. On travaille, vous le rappelez vous-même d'ailleurs régulièrement, la moyenne de l'OCDE, c'est 805 heures de travail annuel par
habitant.
France, c'est 603. Donc,
on est en dessous de 610. Ouais.
Oui, si on mettait les agents des collectivités territoriales au travail, si on passait de 35 heures à 39 heures ou 40 heures...
Vous voyez qu'on n'a pas tout essayé. On n'a pas essayé de passer de 35 à 39 heures.
Oui, absolument. Mais ça n'augmente pas le taux d'emploi. Ça augmente la quantité de travail. Et donc, je pense qu'il faut augmenter la quantité de travail à hauteur des outils dont on dispose.
Quand on voit ce qui vient de se passer à la SNCF, je doute de notre capacité à augmenter le nombre d'heures de travail des Français.
Mais ce qui se passe à la SNCF reste à la SNCF.
Non, pas du tout.
SNCF, comme il n'y a que des cas SNCF.
C'est typiquement français. Comment voulez-vous ? On est tous d'accord qu'il faut plus faire travailler les Français. Et comment le faites-vous ? La question est, comment fait-on travailler les Français plus et les faire travailler autant que les autres Européens ? C'est la grande question et aujourd'hui, personne n'a la réponse. On est la veille de l'élection européenne, le lendemain, on sera la veille d'élections municipales, puis on sera la veille d'élections présidentielles. Et en fait, les décisions ne sont jamais prises parce que, politiquement, c'est inassumable.
Bruno Le Maire vous dira dans son dernier bouquin qu'il faut très fortement alléger le prix du travail en basculant une partie du financement du travail sur l'impôt.
Qu'il le fasse.
Et puis d'autres vous diront qu'il faut avoir un effort de formation dès l'enfance qui soit absolument
révolution. Ça, c'est certain.
Vous savez que...
Descartes.
Bah oui, et Jean-Marc parlait des nombres de thésards scientifiques.
Oui.
Si vous regardez l'enquête TIMSS,
oui,
vous savez qu'on est 63e sur 64 sur le niveau en maths et en sciences des jeunes. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Donc si vous corrigez les déficits publics uniquement en baissant les dépenses publiques, vous y arriverez pas. Vous courrez après les déficits publics. Il faut corriger l'éducation, le nombre de scientifiques, le nombre d'ingénieurs. Et donc c'est un programme sur 10 ans.
Mais c'est un peu copernicien.
Mais ça n'empêche pas de commencer à sortir des dépenses inutiles et de remettre les agents des collectivités territoriales au travail.
Je suis d'accord. Mais les dépenses inutiles, il n'y a aucun problème. Simplement, soudainement, comme jamais, les énormes montants qui nous parviennent et qui vont se cumuler d'ici à 2027. Le Haut Conseil a dit qu'il fallait 65 milliards d'euros minimum d'aujourd'hui à 2027.
Oui, mais il faut doubler. Quand vous réduisez les dépenses publiques d'un euro, vous ne réduisez le déficit public ex post que d'un demi-euro à cause de l'effet sur la croissance. Donc si le calcul mécanique vous dit qu'il faut baisser les dépenses publiques de 65 milliards, il faut en réalité baisser les dépenses publiques de 130 milliards pour réduire le déficit public de 65 milliards.
Je rappelle que dans le programme d'Emmanuel Macron 2017, il y avait 60 milliards de baisse des dépenses publiques.
Et 120 000
suppressions d'emplois. Il s'agit qu'il applique son programme, c'est pas très compliqué. Monsieur Bruno Le Maire devrait appliquer le programme du président de la République auquel il est attaché.
4 minutes 20, Christian Noyer, demain, l'Union des marchés de capitaux. Alors, ça fait maintenant quelques semaines qu'on commence à rentrer dans le dur dans cette émission sur qu'est-ce que c'est. Il va remettre un rapport à Bercy pour avancer sur ce chantier inachevé. On a mis des années déjà à essayer d'aboutir sur l'Union bancaire, c'est à peu près fait. L'Union des marchés de capitaux, Christian Noyer nous dit qu'il faut un produit d'épargne en Europe, il faut relancer la titrisation et il faut une supervision unique par le gendarme européen des marchés financiers. Voilà les trois pistes. Vous croyez à l'Union des marchés de capitaux comme une sorte de nouvelle marche historique à l'instar de l'arrivée de l'euro et de la création de la BCE, Jean-Marc ?
Ah, je pense que c'est indispensable. Oui. Je pense qu'il faut y aller. Je pense que
vous voyez droit au but, là, on a
tout le temps. Oui, donc très peu de temps. Je pense que Christian Noyer a raison. Je partage ces trois...
Mais qu'est-ce que ça va changer, l'union des marchés de capitaux ?
Mais ça va faire en sorte qu'il y ait un marché européen de l'épargne et ça va permettre effectivement de faire circuler davantage et plus simplement les capitaux. Je pense pense qu'il y a un non-dit, et puis je vais donner la parole à mes colistiers, mais je pense qu'il y a un non-dit sur le maintien des banques centrales nationales. Je rappelle quand même qu'au tout début de la négociation de Maastricht, il y avait dans l'idée que les banques centrales nationales devaient disparaître. Je pense qu'un des moyens de favoriser cette union de marché de capitaux, c'est d'avoir une seule banque centrale.
En fait, de facto, on n'en a qu'une.
Mais non, justement. Oui, elle se renforce de plus en plus. Et depuis la crise des dettes publiques en Europe, elles ont pris de nouveau un rôle. Je pense que des éléments aussi, c'est de casser cette dynamique de maintien de structures nationales.
Comment on représenterait les intérêts de chaque pays de la zone euro au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne? Par quelqu'un d'autre?
On ne représenterait pas.
On ne les représenterait pas. On est dans la zone euro.
C'est quand même présenté comme...
Que je sache, la région Nouvelle-Aquitaine, à laquelle je tiens beaucoup, n'a pas de représentant à la Banque de France.
Non, mais d'accord. En tout cas, c'est présenté, cette union des marchés de capitaux, comme la marche supplémentaire qui peut justement sortir du marasme terrifiant dans lequel nous sommes.
Patrick Artus, vous croyez à ça, vous tenez à ça?
L'Europe est essentiellement financée par les banques, pas les États-Unis.
Absolument.
Et donc, quand on fait l'union des marchés de capitaux, si ça marche, vous ne touchez que 20% des financements des entreprises. Et donc, l'essentiel du problème, c'est que les financements bancaires ne circulent pas d'un pays à l'autre, parce que chaque pays veut garder sa liquidité bancaire pour financer des projets d'investissement dans le pays. Et donc, il faut décloisonner le marché des financements bancaires. Aujourd'hui, si une banque française pan-européenne ne peut pas utiliser sa liquidité pour financer un crédit en Italie, par exemple. Et donc, il faut ouvrir les frontières aux flux de capitaux transeuropéens bancaires sur le crédit et sur les dépôts.
Et une question, Sylvain Rébi. La question qui se pose quand même, c'est pourquoi on ne commence pas par avoir une seule fiscalité en Europe?
Parce que ça, c'est exactement venir là-dessus.
C'est ça le sujet primaire, en fait.
Enrico Letta a dit que c'était l'un des éléments auxquels il fallait penser.
Aujourd'hui, vous avez des taux d'imposition qui sont différents dans chaque pays. Et si on commençait par les mettre tous au même niveau,
Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut faire jouer la concurrence fiscale.
Oui, mais enfin, si on n'a plus qu'une banque centrale et qu'on ouvre les marchés des capitaux et de l'épargne à tout le monde, il faut qu'on ait tous la même fiscalité.
Mais pas du tout. À ce moment-là, la concurrence jouera et on aura tous la même fiscalité parce que chacun sera obligé de réagir par l'intermédiaire de la
concurrence. Oui, mais si on commence à se mettre en concurrence à l'intérieur de l'Europe, alors qu'on est déjà en concurrence difficile par rapport au reste du monde, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Moi, je pense qu'il faut absolument que la fiscalité soit la même partout pour que
Enrico Letta ne se pose pas la question. La même
chose. Oui, mais Enrico Letta, c'est un dirigiste.
Enrico Letta est un type formidable.
C'est un dirigiste assumé, avéré, protectionniste.
Mais là, en l'occurrence,
aucune valeur.
Sur la convergence des fiscalités des produits d'épargne, Patrick, en un mot, vous pensez que c'est l'une des briques qu'il va falloir mettre sur la table?
Oui, mais on n'est pas très loin de l'arrivée. À peu près le prélèvement libératoire à 30%, et c'est très près de la moyenne européenne. Il n'y a plus d'écart massif entre les fiscalités de l'épargne.
Bon, merci à vous d'avoir été là. On n'a pas évoqué les rachats d'actions, 1100 milliards de dollars de rachats d'actions en 2023. Bon, je poserai la question un autre jour, n'est-ce pas? Demain, on aura parfait des gens tout à fait intéressés par le sujet. Merci Patrick Artus. Donc, quelle France en 2050? Bon, vous êtes arrêté à 2050. Qui aime l'Europe, à la une de Pour l'Écho. Merci Jean-Marc Daniel d'avoir été avec nous. Et Sylvain Rébi, président.
J'ai rien à vendre,
Dorian. Vous vendez et vous faites des fiches de paye tous les mois.
Voilà,
et ça, je suis désolé.
Ça vaut de l'or.
Absolument. On a fini. Hein, à demain.
C'est fini.
9h. Voilà.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.